美味しそう。
Bonjour, bon, pour les courageux, allez, encore un petit exercice. Je suis éditrice à l'Institut national d'études démographiques et responsable de l'édition française du site des mémoires européennes du Goulag. Alors, je vous fais une courte présentation, parce que c'est un site un peu particulier. Il a été conçu autour de témoignages d'anciens déportés d'Europe de l'Est, originaires d'Europe de l'Est, et donc il est conçu avec des archives sonores des entretiens, ainsi que des documents photographiques, administratifs, de correspondance et de tout type de documents, des dessins, des cartes, etc. Donc, dans sa première version, le site avait été conçu en 2012 comme un musée virtuel. Donc là, vous pouvez voir ce graphisme assez élaboré avec ici un texte flottant en cyrillique et puis des biographies, des thématiques, des chronologies. Donc, le graphisme est élaboré, mais il y a beaucoup de nuances de gris, par exemple. Donc, ça, c'est pas du tout évident à lire avec un logiciel d'assistance vocale. Il faut savoir aussi que le site existe en 5 langues. Donc, français, anglais, russe, ukrainien et polonais, mais que la version de travail, c'est l'édition française. Donc, pour l'instant, on est dans une démarche d'accessibilité de la version française. Dans les autres langues, ça posera évidemment d'autres questions. Donc en 2009, les responsables du projet, 2019, excusez-moi, les responsables du projet ont décidé de rénover le site en proposant d'y publier des articles scientifiques, des podcasts, des parcours pédagogiques pour un public plus large, y compris les non-spécialistes, c'est-à-dire des élèves et leurs enseignants, notamment en collège et lycée. Et à ce titre, le projet des mémoires européennes du Goulag a obtenu un financement du Fonds national pour la science ouverte, donc FNSO2, pour la mise en accès ouvert des données de la recherche et des publications du site, ainsi que sa mise en accessibilité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la démarche d'adaptation du site aux normes d'accessibilité s'inscrit dans le cadre plus général des objectifs de la science ouverte et de l'accès des savoirs au plus grand nombre. Donc, rapidement, le projet FNSO, il s'agissait de rendre toutes les pages du site accessibles à la navigation pour l'internaute. Donc, ça, c'est déjà très problématique. Et bien sûr, l'accès intégral à tous les documents qui y sont liés. Donc, transcription de l'audio pour les malentendants, sous-titrage des vidéos, texte alternatif aux photos et aux documents. On vous en a parlé plusieurs fois, je ne reviens pas là-dessus. Donc, voilà. Donc oui, il y a, dans les pages biographie, par exemple, il y a 120 résumés sur 200 entretiens qui durent 1 à 3 heures. Il y a 3000 extraits d'entretiens d'une à 3 minutes, 2500 photographies. Donc il y a une masse de données, évidemment, qu'on ne peut pas traiter d'un seul coup, mais on va le faire par priorité en fonction de l'actualité des publications. Alors, les étapes de l'audit à proprement parler, c'était une expérience, on va dire. Tout d'abord, il a fallu choisir un prestataire, ce qui s'est avéré pas si évident, parce qu'il y a une multitude de structures maintenant qui proposent cette prestation, avec des expériences très diversifiées, en plus des acteurs historiques du domaine. Alors, au final, le choix s'est porté sur un prestataire qui était particulièrement réactif, avec qui les échanges étaient faciles et compréhensibles, pour nous qui ne sommes pas dans la technique, et qui a été missionné à la fois sur le site institutionnel de l'INED et sur le site des mémoires européennes du Goulag. Donc, on y voyait aussi une cohérence dans l'audit. Alors, le devis qu'on a choisi comprenait à la fois l'audit, l'accompagnement à la rédaction du schéma pluriannuel, l'accompagnement du prestataire chargé de la mise en conformité et le contre-audit à la fin de la mise en conformité. Donc le déroulement de l'audit lui-même passe d'abord par l'échantillonnage des pages. Alors, pour vous donner une idée, sur notre site, il a été identifié 13 pages types. Et ce sont ces 13 pages qui ont été auditionnées avec les navigateurs web, donc notamment Firefox, Chrome, Safari, avec des lecteurs d'assistance vocale qui étaient NVDA pour les PC et VoiceOver pour les Mac, et sur différents supports, notamment les ordinateurs et les téléphones mobiles. Donc, pour vous donner une idée, le travail d'audit de ces 13 pages, a duré 4 jours. On nous a facturé 4 jours de travail. Un jour plus tard, on nous a livré la note de synthèse pour les non-spécialistes, une trentaine de pages, notamment qui résume en fait là où sont les problèmes, y compris l'impact utilisateur, parce que ce n'est pas parce qu'on navigue bien que l'utilisateur navigue facilement. Donc ça reste des choses un peu à déterminer. Il nous a fourni aussi la déclaration d'accessibilité et le rapport opérationnel pour le développeur avec beaucoup de données techniques qui fait une quarantaine de pages. Et puis enfin, nous avons eu la restitution de l'audit avec l'auditeur en visio. Cette restitution a duré une heure, mais là, pour le coup, il nous a fait l'analyse de la note de synthèse pour comprendre le niveau d'accessibilité qui était de 50%, donc on était partiellement conforme, et notamment où étaient les problèmes, notamment comme on vous l'a dit déjà, des problèmes de contraste. Nous, ce sont les gris, évidemment, qu'il a fallu mieux contraster, les histoires de couleurs, et puis là, vous le verrez si vous allez sur le site, il y a du texte qui apparaît quand la souris passe dessus, passe sur le document. Donc ça, évidemment, c'est pas accessible. Ensuite, la déclaration d'accessibilité à proprement parler. Donc, l'audit s'est fait sur 106 critères de la RGA, mais 45 n'étaient pas applicables. Et sur les 62 applicables, 31 se sont avérés conformes, 31 non conformes, donc le taux de conformité est bien de 50%. S'il faut afficher, ça c'est une réglementation officielle, il faut afficher la déclaration en pied de page au niveau des mentions légales. Donc si vous allez sur le site, vous verrez qu'on a bien du mal à les trouver. Donc là aussi, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et puis on y a aussi inscrit le document fourni par l'auditeur qui est la déclaration d'accessibilité RG2A. Ensuite, il a fallu réfléchir au schéma pluriannuel de mise en conformité qui, comme vous le savez, on vient de vous le dire plusieurs fois, doit être conçu sur 3 ans et exécuté par contre au niveau institutionnel et accompagné par un référent accessibilité. Alors c'est là pour nous qu'il y a eu pas mal, ça n'était pas prioritaire pour la direction. Et puis ensuite, on a eu un changement de direction, donc il a fallu tout réexpliquer. Et là, bon, c'est un peu dans les tuyaux, voilà. Donc, il a été envisagé aussi par la direction de nommer un seul référent handicap et accessibilité pour réunir les compétences, mais les missions sont effectivement pas les mêmes. Donc, nous, on était quand même dans la contrainte du financement FNSO qui nous avait accordé 2 ans pour aller de l'audit au contre-audit. Et là, on est à 2 ans et on a demandé un avenant d'un an qui nous a été accordé. Mais il a donc fallu engager la mise en accessibilité du site sans attendre le SPAN, en fait, le schéma pluriannuel. Donc on l'a commencé. Alors là, il y a eu un autre souci, c'était de choisir le prestataire. Parce que, en fait, le développeur initial du site nous a fait, après plusieurs mois, une proposition de devis assez élevée, voire très élevée. Et là, l'auditeur nous a accompagnés pour trouver d'autres développeurs qui éventuellement correspondrait le mieux à ce type de site et à ce type de balise. Il nous a permis de mettre en concurrence ces différents prestataires et nous permettre de les interpréter et de les comparer. Et en fait, il y avait peu d'interfaces de spécialistes de l'interface Drupal. En fait, c'était aussi l'autre problème. Donc l'auditeur nous a guidés et le prestataire qui a été choisi va effectuer les mises en conformité des pages du site d'ici octobre 2024 et ça va durer 12 jours environ. Donc ça vous donne une idée un peu du temps de travail et puis de ce qu'il faut faire évaluer. Le contre-audit doit avoir lieu dans tous les cas au plus tard en février 2025. Alors il faut savoir qu'à côté de cette mise en conformité de ce nouveau prestataire, il y a évidemment tout le travail de l'équipe des éditions, notamment, évidemment, fournir les textes alternatifs aux images, mais aussi fournir les transcriptions des extraits audio et vidéo. Et puis, où est-ce que j'en suis ? Eh oui. Et puis, il y a le modèle d'article qu'il va falloir penser comme nativement accessible. Donc, le travail... Voilà, je vous montre un exemple. Donc, pour répondre aux exigences de de la science ouverte et de ce financement, en fait, tous les documents sont renseignés, c'est-à-dire qu'on y assigne, ce sont des documents à part entière qui auront un DOI, donc un identifiant pérenne, et qui seront enregistrés et accessibles sur un entrepôt de données. Donc là, on est en train de créer une collection Mémoire européenne du Goulag dans l'entrepôt DataGouv. Donc ça, voilà, c'est en train de se mettre en place. Donc dans ces métadonnées, comme je vais vous le montrer sur cet exemple, il y a à la fois le type de document, donc là l'onglet dessin n'existait pas, on est en train de le faire créer, le nom de l'auteur, la date à laquelle elle a réalisé ce dessin, qui est en novembre 1952, et puis une description qui est plutôt une contextualisation en fait de l'image et qui fournit des informations complémentaires pour que la personne qui cherche à avoir les données concernant cette image ou ce dessin ait des informations en plus. Donc là, c'est le dessin de trois costumes portés par des amis dans le village d'Ivanovka en Sibérie. Il a été réalisé alors que la personne, l'auteur, avait 21 ans et était en 52 encore dans les camps, mais dans les villages déplacés. Donc ces informations sont donc accessibles en totalité et à tout le monde. Ce qui fait qu'effectivement, on va rajouter un texte alternatif à cette image, mais au final, beaucoup d'informations sont déjà accessibles. Pardon. Donc pour conclure très rapidement, il y a quand même 3000 extraits et 2500 documents à traiter. Donc l'objectif à l'issue du projet FNSO est que les pages mises en conformité servent de modèle pour les développements futurs. C'est-à-dire le développeur historique qu'on avait pour le site doit aussi bien comprendre comment on fait la mise en accessibilité et nous proposer des pages directement accessibles, nativement accessibles, donc pour les articles, pour les parcours pédagogiques et les articles scientifiques. Donc vous l'avez compris, le schéma pluriannuel sur 3 ans ne suffira pas, mais en tout cas, on doit garantir l'accès de toutes les pages. Et puis ensuite, on va renseigner les documents au fur et à mesure. Alors, bilan de l'expérience, vraiment c'est la fin là. Il y a 3 éléments qui nous ont semblé vraiment fondamentaux finalement, au vu de toute cette errance, on va dire. C'est bien expliquer en amont le projet aux différents partenaires, notamment les directeurs de projet, les chercheurs et chercheuses, les auteurs, les autrices et les éditeurs et éditrices. Notamment parce que le projet de la mise en accessibilité peut être ressenti comme une contrainte quelquefois, notamment quand on leur parle des couleurs, des nuances, des contrastes. Ils ressentent ça comme finalement une limite à ce qu'ils aimeraient voir sur un site, voilà, tel que les mémoires européennes du Goulag, c'est-à-dire il y a des empattements, il y a des degrés de gris, etc. Donc il faut bien prendre le temps d'expliquer le projet. Insister sur les objectifs communs des normes de l'accessibilité et des engagements de la science ouverte, parce que pour le coup, c'est vraiment ce par quoi on est passé et c'est tout à fait logique dans les objectifs de science ouverte. Donc ça, à mon avis, ça aide à accepter en fait le projet. Et puis enfin, ce qui nous a été essentiel aussi, c'est choisir un prestataire qui accompagne l'équipe entre l'audit et le contre-audit. Parce qu'on n'aurait pas eu le prestataire, il nous aurait été bien difficile de comprendre les devis qui nous étaient proposés. Et surtout, comment dire, ben là, il nous faut plus d'intervention sur les couleurs, là, il nous faut plus d'intervention sur les scripts. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Ben justement, donc on va passer aux questions. Donc, y a-t-il des questions dans la salle pour l'un de nos intervenants? Oui, à gauche.
Bonjour. J'avais une question pour la dernière intervenante, l'INED, hein, c'est ça? Je ne sais pas si vous aviez donné le coût, si vous pouvez donner le coût de l'audit.
Le montant?
Oui, le montant, oui.
Écoutez, on a reçu un financement pour l'accessibilité de la part du FNSO qui était d'environ 10 000 euros. L'audit nous a coûté 4 000 euros. Le contre-audit nous coûtera moins de 3 000 euros. Et donc, on a demandé à l'auditeur que le restant, en fait, donc ça fait 3 000 euros, qu'on puisse s'en servir pour financer l'accompagnement pour la mise en conformité. Au départ, ce budget était prévu pour le schéma pluriannuel de mise en conformité. Mais comme on n'est pas encore dans ce schéma et qu'on doit faire la mise en conformité, il a tout à fait compris. Et puis surtout, chaque fois, il a répondu présent, chaque fois qu'on le demandait, qu'on l'appelait à l'aide, comme Valérie quand on l'a appelé à l'aide. Enfin, voilà. Donc il y a eu quand même comme ça plusieurs périodes avec pas mal d'émotions, en fait. On se disait comment on va s'en sortir. Et vraiment, la mise en conformité n'est pas dans ce budget. On a fait faire d'autres devis. On compte en plus, pour les 12 jours de mise en conformité, il nous est demandé 6 000 euros à peu près, ou 7 000 TTC. Voilà. Donc ça, c'est sur le budget de l'Institut.
Et pour combien de documents, après, pour la mise en conformité? Vous ne savez pas ça?
Il y a les 13 pages type. Et puis les documents, ça, il nous fournit des gabarits et nous rentrons les informations dedans. Voilà. Donc il faut que le développeur crée les pages suivantes directement, puisqu'on est toujours dans le cadre de la refonte. Et puis ce que je vous ai montré là avec les dessins, c'est le type de données qu'on est en train de renseigner. Mais on commence.
Merci.
Oui.
Il y avait derrière.
Oui.
D'autres questions?
Si je peux me permettre, vous pouvez vous faire rembourser 50% d'un audit par le Fonds d'insertion professionnelle pour le handicap.
Ah.
Vous consultez le catalogue du FIPHP, ce sont les fiches 29 à 31.
29 à 31.
J'étais motivée pour retenir parce que le PDF n'est pas accessible, donc ouais. J'ai lu les 140 pages.
Bonjour, je voulais savoir pour les audits si il y avait des institutions publiques qui proposaient ce genre de prestations ou si nous étions forcés de nous diriger vers le privé.
Ça évolue beaucoup, mais je pense qu'on a des auditeurs privés et des auditeurs associatifs. Valérie ?
Principalement, oui, ce sont des sociétés privées. Mais renseignez-vous auprès de vos institutions, parce que, par exemple, à l'ENS de Lyon, le service d'une responsable du parc informatif s'est formé. Et son objectif, c'est de pratiquer lui-même les audits. Vous pouvez parfaitement auditer votre propre site. Hein. La loi ne vous l'interdit pas, une fois que vous êtes compétent. Mais pour l'instant, effectivement, à ma connaissance, il y a quelques acteurs privés, une vingtaine. Vous trouverez la liste dans... Il y avait un marché public de la direction des achats de l'État qui n'a pas été renouvelé, qui date de 2021 ou 2022. Et vous avez la liste de ces prestataires.
Merci.
Moi, j'aurais une question à n'importe lequel d'entre vous. C'est quels sont les principaux freins que vous avez rencontrés dans vos projets de mise en accessibilité? Est-ce qu'il y a des freins politiques, des freins techniques, des freins vis-à-vis des différents intervenants? On a vu qu'il fallait informer beaucoup, etc. Donc, quels sont les principaux freins que vous rencontrez dans ce type de projet?
Je dirais qu'il y a eu un accélérateur, c'est la transcription en droit français de la directive européenne. Ça donne un appui quand même pour faire bouger les choses. Sinon, ça a pris beaucoup de temps, oui, effectivement. Nous, on a obtenu le financement FNSE en 2022, on est en 2024, on est loin d'avoir terminé. Il y a des délais assez longs, en fait, parce que c'est assez difficile, finalement, de bien... Ce qui nous semble à nous évident, en fait, ne l'est pas forcément pour nos interlocuteurs. Donc, du coup, c'est pas traité en priorité. Puis on finit petit à petit par bien se faire comprendre, mais ça prend un peu de temps.
Et les compétences en développement.
Christelle ?
Oui, non, et puis la sensibilisation, c'est vrai que... Enfin, c'est vraiment d'expliquer pourquoi on fait ça. Enfin, je veux dire, en effet, il y a la loi,
Mais après, le plus important, c'est le résultat et pourquoi on le fait. Et donc ça, c'est vrai qu'il faut expliquer pourquoi et pas juste avoir des textes très courts qu'on peut retrouver ailleurs. Et voilà, ça, c'est vraiment un travail qui prend du temps pour expliquer le contexte et surtout le résultat, pourquoi on fait ça.
Les besoins en formation aussi, parce que nous, on n'a pas encore... attaquer l'accessibilité du site numérique, mais dans notre recherche de prestataires, c'est très difficile de trouver un prestataire qui a des compétences en développement informatique et en UX design intégrant l'accessibilité numérique. Donc il y a un gros travail de sensibilisation pour qu'on se rende compte que c'est important, qu'il est important de le faire. Et ensuite, il faut pouvoir avoir les compétences. Donc, les compétences en interne, se former à la rédaction des textes alternatifs, ce n'est pas une évidence. Ça demande de la pratique. Nous, depuis 2 ans qu'on essaye de le faire en interne, les textes alternatifs qu'on a travaillé avec les auteurs cette année ne sont pas les mêmes que les premiers rédigés il y a 2 ans. Du coup, on a fait évoluer notre guide.
Une autre question ? Oui.
Bonjour. Une question concernant, dans la première intervention, j'ai noté utilisation de liens explicites. Et j'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'on entend par liens explicites, de manière plus détaillée.
Rachid, vous êtes toujours là ?
Site, un lien HTML, lien hypertexte explicite, ce qu'on entend en fait, c'est, vous voyez, par exemple, pour télécharger le guide de sensibilisation à l'accessibilité numérique, vous avez un lien, et le lien, je vais écrire réellement l'action que le lien va faire en fait. Je ne sais pas si je m'explique. Si je me fais bien comprendre, mais en fait, dans le lien, je ne vais pas mettre l'URL du lien, qui est souvent, c'est un peu n'importe quoi, une suite de lettres qui n'a pas de sens. Le lien que je vais mettre, c'est télécharger le guide de sensibilisation. Ça va être réellement, c'est ça, un lien explicite en fait.
Voilà. Cliquer ici, par exemple, ce n'est pas du tout un bon lien, par exemple. Parce que quand cliquer ici, on voit dans beaucoup de sites, cliquer ici. Bon, mais s'il y en a 8 dans une page, le problème, c'est qu'un lecteur d'écran, généralement, il va prendre les liens et il est capable de vous faire, tiens, quelles sont la liste de mes liens. Alors, s'il y a cliquer ici, cliquer ici, cliquer ici, cliquer ici, et qu'il n'y a pas de contexte, on ne sait pas sur quoi cliquer, en fait.
Tout à fait. Ça n'a plus de sens.
Et alors, dans le cadre de l'édition, si on a une référence bibliographique et qu'on met le lien sur le titre... Pour vous, c'est un lien explicite ou pas ?
Oui, le titre, si c'est vraiment un titre d'article ou chose comme ça, ou de livre, oui.
D'article, de revue, de monographie.
Il y a des fois, c'est rapport, et encore, même s'il y a un rapport numéro de quelque chose, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'il faut que le lien il soit différencié d'un autre lien, en fait. Il ne faut pas que tous vos liens se retrouvent avec un même libellé. Si vous sortez le lien de votre contexte, est-ce qu'on arrive toujours à savoir vers quoi il pointe ?
D'accord. Je pense qu'un titre d'article ou d'ouvrage est assez explicite en soi.
Si je peux me permettre.
Non, je ne savais pas si c'était. Il fallait mettre l'URL lisible. Vous savez, HTTP. Ça, c'est une question que je me pose.
C'est ce qu'il ne faut pas faire.
Et si je peux me permettre, pour comprendre pour l'utilisateur comment ça peut se présenter, quand on navigue avec un lecteur d'écran sur une page HTML, on peut ouvrir la catégorie des liens. Donc il va nous lister tous les liens d'une page. Donc cliquer ici X fois, je ne sais pas sur quel lien cliquer.
En gros, vous voulez toujours faciliter la navigation. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une table des matières, donc avoir des titres bien corrects. Parce que finalement, quand vous avez que 40 caractères sur une page web de visible, puisqu'on est complètement linéarisé, vous avez 40 caractères et vous devez trouver l'information sans aucune globalité. Donc il faut vous aider vraiment à naviguer. Donc il y a des aides pour dire, justement, on vous montre tous les titres les uns derrière les autres, on vous montre les tableaux, chaque case si vous voulez, on vous montre les liens. Donc il y a plein d'outils de lecture qui vous permettent de faire ça, mais faut-il que les libellés soient corrects parce qu'ils sont à ce moment-là sortis du contexte.
Ce qui est préconisé également, c'est un plan du site qui est toujours au même endroit aussi, pour faciliter aussi la navigation. Retrouver toujours le même plan au même endroit, ça facilite la navigation.
Alors il y a quelque chose qui a été dit aussi, que j'aimerais souligner, je l'ai entendu dans le discours de Valérie, c'est que bon, souvent quand on voit les publics empêchés de lire, c'est vrai qu'on voit souvent les aveugles et malvoyants. Il y a un public qui est très très nombreux, beaucoup plus nombreux que les malvoyants, c'est les publics 10. Les dyslexiques, les dyspraxiques sont assez nombreux et c'est vraiment un public qui est très empêché parce que finalement, un livre normal, s'il n'y a pas une aide pour suivre le texte, etc., et ben c'est très très difficile pour eux. Et donc une mise en accessibilité vous permet de toucher beaucoup plus fortement ce nombre de ces personnes-là. Et c'est marrant parce qu'ils n'ont pas été considérés comme empêchés de lire en 2005 quand la loi est sortie, c'est arrivé bien après. On les a considérés comme ayant droit à à l'exception au niveau du handicap. Et ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux.
Okay, oui. Ils font partie des 80% de handicap dit invisible.
Pour prolonger la question sur les liens, quand on a une liste biblio avec plein de DOI, si ça sort les liens, on va avoir qu'une succession de chiffres. Il faudrait remettre le titre de l'article ou du... C'est ça qu'il faudrait faire en bonne pratique ?
Alors, j'ai du mal, mais en tout cas, si vous mettez le lien seulement sur le DOI, c'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir ce que c'est.
Mais parce qu'en général, les DOI, c'est juste les chiffres ou HTTP, je sais pas quoi, et à la fin, le chiffre.
Bon, après, dans un lien, on va parler, je suis désolé, on parle un peu technique, mais il y a le contenu du lien que vous avez dans la balise A, mais vous avez aussi l'attribut title. Mmh. Donc on a quand même une différenciation entre ce qui va être affiché et finalement peut-être une information plus contextuelle qu'on est capable de mettre et qui vont être lues par les lecteurs d'écran correctement.
Oui, bonjour. Vous avez parlé notamment des questions de couleur, de contraste, mais je voulais savoir aussi au niveau des polices choisies, s'il y avait des préconisations, police à empattement ou non. Et notamment, vous avez parlé du public 10. Il y a des graphistes aussi qui ont développé des polices qui étaient adaptées à ce public particulier. Et du coup, est-ce qu'il y a des possibilités de donner cette option-là sur les plateformes, par exemple, de diffusion? Est-ce que ça a été évoqué dans vos audits, par exemple?
Alors, nous, pour les ouvrages, on s'était posé la question, savoir, mais en tout cas, pour les ouvrages papier, on n'a pas modifié. Ce qui est possible, c'est sur l'EPUB, en fait. Vous pouvez choisir, en fait, le style de police. C'est vrai que quand j'avais fait une formation, on m'avait dit, enfin, voilà, de pas, pour l'ouvrage papier, en tout cas, de ne pas modifier par rapport... Alors, éviter, en effet, les empattements et ce qu'on peut... Mais en tout cas, avec les polices qu'on a actuellement, on n'a pas modifié. Après, c'est plutôt pour les couvertures, justement, ce qu'Anaïs a fait, c'est d'imaginer des couvertures où on a déjà quand même une police qui est... Voilà, parce que comme ça va sortir en image, en fait... Mais oui, en tout cas, pour nos ouvrages papier, on ne change pas. C'est sur l'EPUB, en fait, avec toute la liste de polices que vous avez, que vous pouvez, selon, ben voilà, il va y avoir, chaque personne est différente, donc certains vont avoir une certaine police qu'ils vont pouvoir, voilà, qu'ils vont préférer, et en fait, on peut agrandir, on peut, ça va être plutôt joué là-dessus, en tout cas.
C'est le lecteur qui choisit la police dans son outil de lecture et vous lui laissez la possibilité de reparamétrer l'affichage en fonction de ses besoins. Ce n'est pas vous qui, dans votre contenu, allez imposer une police. Parce qu'effectivement, il existe des polices pour dyslexiques, mais il n'y a pas une police qui convient à tous les dyslexiques. Et dans les navigateurs web, c'est pareil, vous avez la possibilité d'afficher. Maintenant, il y a des fonctionnalités de paramétrage et d'affichage en termes d'accessibilité. Et vous pouvez choisir votre police, celle qui vous convient le mieux. Et dans l'EPUB, vous le faites dans votre application de lecture aussi.
Être spécialiste de l'accessibilité au niveau de l'informatique, on peut considérer que c'est une vraie spécialisation. Ça demande, c'est pas une formation de 3 jours. Hein. Derrière, faut s'attaquer pas mal parce qu'il y a beaucoup de normes. On n'en a pas parlé, mais il y a la norme ARIA, justement, qui fait beaucoup de choses là-dessus, donc qui est un complément de, je dirais, HTML, CSS. Et voilà, pour arriver à faire un composant vraiment accessible, eh ben, voilà, il y a même eu des projets de recherche au niveau européen pour dire comment faire des onglets, comment faire ce genre de choses de façon accessible. Et si la personne, l'informaticien, il n'a jamais vu l'accessibilité, il a une chance sur deux de se planter, quoi. Donc il y a vraiment une sensibilisation transverse. Hein, c'est un peu le problème de l'accessibilité, c'est que ça touche vraiment tout le monde. Et que en plus, il y a une vraie compétence à avoir au niveau technique.
Ça s'est vu dans les profils des stagiaires du diplôme universitaire référent accessibilité numérique qui s'est déroulé sur l'année universitaire 2023-2024. Nous étions 21 et il y avait des profils d'éditeurs, des profils de bibliothécaires, de documentalistes, des profils plus techniques en développement web. Donc travailler l'accessibilité, c'est travailler en équipe avec tous les métiers.
Merci pour ces retours d'expérience très riches. Et moi, il me semble qu'il y a un point qui est particulièrement intéressant, que je n'avais pas du tout imaginé. Je crois que vous êtes deux à l'avoir mentionné, c'est que finalement, vous publiez aussi les textes alternatifs aux images, pour tout le monde, si j'ai bien compris, à Quae, dans des encadrés. Et finalement, ça devient un enrichissement éditorial au-delà de l'accessibilité. Donc, en tout cas, d'un point de vue éditorial, c'est extrêmement intéressant. Et de l'introduire dès les consignes aux auteurs, voilà, c'est un travail complémentaire, mais là, qui apporte en plus, qui est une plus-value éditoriale pour l'ouvrage. C'est ça, j'ai bien compris. Est-ce que c'était dès le départ ou en fait, c'est en le faisant que vous vous en êtes rendu compte?
Non, en fait, c'est dès le départ. Tu as la possibilité de les cacher ou pas, tes textes alternatifs. Et c'est vrai qu'on s'est dit que... des fois, on a des ouvrages et des illustrations assez complexes et on s'est dit que d'avoir ce texte en appui pour tout le monde, c'était bien aussi. Donc après, on peut choisir, dans l'EPUB, tu peux choisir de le lire ou pas, de le cliquer ou pas, donc d'avoir cette information-là, mais tu laisses le choix aux lecteurs de le lire ou pas.
Mais vous les imprimez aussi dans les versions imprimées, c'est encadré ou c'est uniquement pour le numérique
et non, c'est que sur l'EPUB.
D'accord, donc textes cachés en quelque sorte, c'est pas des textes finalement
non,
qui ont été
en fait, tous nos textes alternatifs, nous, c'est que sur l'EPUB, en fait.
D'accord, ok.
Pour compléter votre question, pendant qu'on a préparé la table ronde avec Christelle, justement, elle me faisait part d'une expérience où les auteurs finalement changeaient d'image parfois. C'est bien vous qui m'avez dit ça, si je ne m'abuse. Une image qui est. Alors c'est une des deux qui m'a dit ça, que finalement.
C'est chez nous.
L'auteur. Je vous laisse expliquer.
J'ai un collègue à ENS Édition qui travaille avec un auteur qui a dessiné une carte. Et au moment où il a dû rédiger le texte alternatif, il était très, très gêné parce que sa carte était difficilement compréhensible. Elle n'était pas aboutie. Donc, il est en train de retravailler sa carte avec un cartographe. Ça a permis d'optimiser la préparation de copie, le manuscrit.
Le fait de verbaliser, finalement, montre l'inadéquation de ce qu'on avait choisi avant. C'est pas inintéressant.
Ça permet aussi de la pertinence de publier l'image ou pas. Parce que finalement, quand on a un auteur qui peut réagir en étant gêné pour rédiger ce texte, en concluant que finalement... il n'y a pas la nécessité de publier de rédiger le texte alternatif, est-ce qu'il y a la nécessité également de publier l'image?
Oui, pour rebondir sur ce point-là, je collabore sur un article avec un collègue qui par ailleurs dessine, Et donc pour une présentation, pour une communication la semaine prochaine, il me présente le PowerPoint. Et donc il avait fait notamment de la bande dessinée pour illustrer notre présentation. Et donc c'est sur le travail scientifique. Et donc il me décrit les scènes qu'il a voulu, enfin qu'il a mis en présentation. Et effectivement, en faisant l'audio description, on s'est rendu compte qu'il avait par exemple dessiné trois ou quatre activités scientifiques, mais qui ne relevaient pas du tout de ce que nous, enfin qui étaient même un contresens de ce que nous on décrivait dans l'article, parce que en fait on parlait surtout des activités qui nous, enfin toutes les activités non scientifiques, mais en fait qui nous prennent le plus de temps dans notre activité de chercheur et qui n'étaient pas du tout représentées dans ces dessins. Et donc effectivement cette verbalisation, et ça lui arrive, enfin ça nous arrive beaucoup, dès lors qu'on verbalise l'image, on se rend compte effectivement de la pertinence ou non de, et ça me fait rebondir sur un concept, alors notamment travaillé dans les études sourdes, qui s'appelle le deaf gain, donc le gain sourd, mais qui peut se traduire avec tous les handicaps. Hein. C'est vraiment le gain que c'est de travailler sur l'accessibilité pour des personnes spécifiques, mais en fait le gain que c'est pour des personnes qui n'ont pas ces spécificités-là, et typiquement cet exemple-là montre qu'effectivement c'est un gain pour même les personnes voyantes de passer par une verbalisation d'une image. En fait, profite à tout le monde, même ceux qui voient l'image, quoi.
Des bénéfices. Alors, à lui.
Exactement.
C'est aussi le cas pour les tableaux statistiques, dont on a un grand nombre à l'idée.
Mais quand on réfléchit à l'accessibilité des tableaux.
Bien, bah, écoutez, je vous remercie. On va s'arrêter là parce qu'on a déjà un petit peu dépassé. Je remercie les quatre intervenants de cette table ronde.